Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Le 27 juin 2007, on fêtait le 80e anniversaire de l'aéropostale. Voici raconté par Axel Mauger l'aventure des ailes françaises, l'histoire de la célèbre ligne aérienne grâce à laquelle ont été immortalisés par Saint-Exupéry les noms de Mermoz, Guillaumet, Didier Dora. Cette émission est la première d'une série de trois, toutes disponibles à l'écoute ou au libre téléchargement dans notre médiathèque.
Une fois installés dans l'Airbus qui nous ramène à Paris, de nombreux souvenirs à la fois bruissants et chatoyants éclairent notre esprit. Les propos tenus par tant de francophiles argentins nous ont profondément émus. Le mot « culture » signifie encore quelque chose pour un certain nombre d'habitants de cette planète que l'auteur du Petit Prince a essayé d'apprivoiser. Juste avant le décollage, il nous faut saluer par la pensée toutes ces femmes argentines disparues, vivantes, anonymes ou célèbres, la figure électrisante d'Eva Perón que Madonna la sulfureuse a incarnée à l'écran. La volontaire Amalita de Fortabat, tantôt lionne, tantôt aigle, la sensuelle panthère noire, Victoria Ocampo, et la pétillante Odile Baron Supervielle. L'avion s'élance déjà sur la piste. Quel dommage que Louis Malle ou François Truffaut ne soient pas venus tourner des films à Buenos Aires. Ville magique, pleine de secrets, peuplée de femmes éblouissantes. L'aéronef monte avec puissance, souplesse, vers la carte mystérieuse du ciel. Nous en profitons pour relire un passage significatif puisé dans la préface qu'André Gide a donnée à Vol de nuit. Livre, bien entendu, que vous connaissez de Saint-Exupéry. Je cite « Les faiblesses, les abandons, les déchéances de l'homme, nous les connaissons de reste, et la littérature de nos jours n'est que trop habile à les dénoncer. Mais ce surpassement de soi qu'obtient la volonté tendue, c'est là ce que nous avons surtout besoin qu'on nous montre. » C'est Saint-Exupéry qui écrit dans ce livre d'une simplicité lumineuse « Aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire. » Quelle merveilleuse formule, et si vraie, si profonde. Comme en un éclair, il nous revient soudain la façon dont Gilbert Cesbron surnommait l'auteur du Petit Prince, il le surnommait Saint-Antoine d'Exupéry. Quelques minutes plus tard, une hôtesse nous offre Le Monde, le journal Le Monde. Oh, triste surprise, nous y apprenons la disparition de Jean Macaigne, un compagnon de vol de Saint-Exupéry, paix à l'âme de celui qui vient de s'éteindre à l'âge de 90 ans. Il avait commencé sa carrière à l'aéropostale à Toulouse en 1927, s'illustrant sur la ligne France-Chili. Au fil des années, il avait effectué de multiples vols auprès d'as français tels que Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, Rennes, Étienne. Lorsque Jean Macaigne part à la retraite en 1960, il avait à son actif 23 000 heures de vol, dont 6 000 de nuit, expérience acquise sur 23 types d'appareils, chapeau. Jean Macaigne est l'auteur de plusieurs publications. Dans le lot, retenons trois titres, Mineur du ciel, Le courrier de l'aventure et Les avisos de l'aéropostale. Réalise-t-on aujourd'hui le courage qu'il a fallu à ces pionniers pour que le courrier arrive toujours plus vite en Amérique du Sud avant de revenir en Europe? Quelque temps avant la disparition de Jean Mermoz, disparition qui survint le 7 décembre 1936, alors qu'il était aux commandes de la Croix du Sud, Air France avait fêté la 100e traversée de l'Atlantique Sud. Moins de 2 ans plus tard, la compagnie célébrera la 300e traversée. En 2007, nous n'osons imaginer la quantité de vols qui a déjà eu lieu au-dessus de cet océan agité. Il faut rendre un vibrant hommage à Didier Dora, qui dès le début a défendu contre vents et marées la mystique du courrier. Ayant réussi à nous procurer l'ouvrage exaltant de Jean-Gérard Fleury, « La ligne », c'est le nom du livre, dans une librairie de l'avenue Corrientes à Buenos Aires, il est temps de l'ouvrir. Cet écrivain qui vivait il y a encore peu à Rio de Janeiro, où nous avons eu la joie de le rencontrer, appartenait au dernier carré des survivants de l'aéropostale. Aussi est-ce avec passion que nous pénétrons en plein ciel dans l'univers de ce livre éblouissant d'héroïsme, de modestie et de vertu française. Pas moins de la moitié de ce témoignage raconte avec une rare ferveur l'aventure des ailes françaises en Amérique du Sud. Et quelle aventure ! Elle commence en mai 1924, lorsque le capitaine aviateur Roig médite les instructions que Pierre-Georges Latécoère et Didier Dora lui ont données avant son départ. Il est nécessaire de rappeler que le courrier entre la France et l'Argentine mettait à l'époque au moins 15 jours. Roig avait pour mission de prouver que l'aviation pouvait faire mieux. Mais pour réussir un tel pari, il était indispensable de passer à travers la redoutable muraille orageuse gardant l'Atlantique Sud. L'accueil reçu, aussi bien au Brésil, en Uruguay qu'en Argentine, fut à la hauteur des espérances du capitaine. Dans son action, il eut la chance d'être épaulé par un compagnon de guerre argentin, l'intrépide Vicente Almendos de Almonacid. Imprégné de culture française, cet as aimait notre pays qui avait montré aux siens le chemin de l'indépendance au siècle dernier. Durant la Grande Guerre, avec une audace inouïe, Almonacid effectua des vols de nuit au-dessus des tranchées allemandes, surnommé le Condor de la Riora. Une fois revenu chez lui, ce héros triompha de la cordillère des Andes en utilisant la dangereuse route du Nord. N'est-ce pas Paul Morand qui confie dans Air Indien, je cite, « Car l'Amérique est une, le Nord réfléchit le Sud, les Andes se nomment ailleurs les Rocheuses, mais ce sont les mêmes montagnes. » Il ajoute un peu plus loin, « L'homme américain a passé directement du sentier de guerre aux pistes du ciel, d'un seul bond, par-dessus l'histoire, il est arrivé à ce ciel, libre royaume où il ne rencontre rien que l'oiseau. » Bref, en Argentine, le capitaine Roig ne trouva que des appuis. Il se surpassa en reliant bientôt Buenos Aires à Rio de Janeiro. Avant lui, un seul homme avait accompli un tel raid, le Brésilien Edu Chavez, formé en France. Mais avant d'organiser la ligne entre notre pays et l'Amérique du Sud, il fallait baliser la route aérienne allant de Rio vers la côte nord du Brésil et ce jusqu'au cap qui s'avance dans l'Atlantique Sud. C'est le 9 mars 1925 que l'aviateur Vaché saute tous les obstacles en parcourant dans les deux sens les 5000 km qui séparent Buenos Aires des Récifs. Les Allemands essayèrent de réagir trop tard puisque Pierre-Georges Latécoère venait d'obtenir une exclusivité postal sur la nouvelle ligne sans, précisons-le, avoir bénéficié de l'appui du gouvernement français. Il est intéressant de souligner ici que c'est un Français de l'étranger, un certain Marcel Bouilloux-Lafont, qui apporta son soutien à Latécoère. Tous ceux qui ont approché ce financier visionnaire témoignent qu'il émanait de ce personnage unique, généreux, flamboyant, non seulement une véritable humanité, mais encore une secrète poésie. Depuis le début du siècle, avec une opiniâtreté sans pareille, ce maître d'œuvre bâtissait un empire en Amérique du Sud. Il avait fait creuser des ports, créer des lignes de chemin de fer, construire des villes, ouvrir des banques. Grâce à lui, la France lointaine en retirait bien plus que des profits matériels. Sa puissance était à son apogée lorsqu'on lui présenta Pierre-Georges Latécoère. Avec le recul, Marcel Bouilloux-Lafont apparaît au début du XXe siècle comme un duplex sud-américain. Grâce à lui, le contrat que les Français signèrent garantissait pour 10 ans l'exclusivité du transport du courrier aérien jusqu'à concurrence de 25% du courrier total à destination de l'Europe. Une nouvelle fois, les Allemands s'efforcèrent d'empêcher la signature d'une telle entente en vain. Le contrat, une fois paraffé, Marcel Bouilloux-Lafont devint le patron de la plus importante entreprise aéronautique mondiale. Rester à ouvrir la ligne, c'est ce à quoi s'employèrent aussitôt l'élite des pilotes français, dont quelques noms parmi les plus prestigieux méritent d'être rappelés. Il y eut d'abord Vaché, Thomas, Delay et bien d'autres, les Mermoz, Guillaume, Antoine, Rennes, Saint-Exupéry, Bédrignan, Pivot, Rosès, Négrine, Panvril et Guinemer vinrent ensuite les rejoindre. N'oublions pas les paroles marquantes de Didier Dora, l'ancien chef d'escadrille à la fois bourru et courageux, « On écrit tous les jours, on décollera tous les jours ». Confortablement installés dans la cabine de l'Airbus, nous continuons à dévorer le récit de Jean-Gérard Fleury. Stupéfaits nous le sommes, autant par les victoires que par les accidents souvent épouvantables de ces hommes intrépides. Nous nous surprenons à répéter à mi-voix les paroles de Didier Dora. On écrit tous les jours, on décollera tous les jours. En fait, Marcel Bouilloux-Lafont avait compris que la sécurité de l'aviation dépendait des installations terrestres. D'où le rôle crucial joué par les mécaniciens dans son roman « L'équipage », adapté par Anatole Litvak en 1935. Joseph Kessel immortalisera le couple formé par le pilote et son mécanicien. Il faut insister sur le rôle unique joué par Didier Dora, à qui, précisons-le, Saint-Exupéry a dédié vol de nuit au début de l'aéropostale, dont le siège était installé à Toulouse, avant même que l'on ait seulement songé à ouvrir la ligne traversant l'Atlantique Sud. Lorsque le ciel était trop bas et retenait au sol un pilote, donnant l'exemple, Didier Dora prenait lui-même les commandes de l'appareil pour aller livrer le courrier. C'est ce meneur d'homme qui écrivit sur Jean Mermoz les propos suivants, je cite, « Dévoué, modeste, nous lui devons notre régularité. C'est encore lui qui sut créer une véritable religion de l'aéropostale. Je cite, « Ses yeux, au-delà des passions humaines, discernaient l'œuvre. S'il avait suspendu un seul départ, la cause des vols de nuit était perdue, mais devançant les faibles qui demain le désavoueront, Rivière dans la nuit a lâché cet autre équipage. » Vous reconnaissez là quelques propos de Saint-Exupéry dans « Vol de nuit ». En novembre 1927, Mermoz rejoignit ses camarades en Amérique du Sud. Il faut apprécier le portrait qu'en propose Jean-Gérard Fleury à la page 161 de son récit, donc la ligne. Très vite, l'aéropostale apparaît comme un bienfait pour ce continent, immense espace ayant enfin la possibilité de développer ses relations avec l'Europe. Ainsi se termine la première partie de cette émission sur l'aéropostale. Vous pouvez bien entendu la télécharger gracieusement dans notre très belle médiathèque.